Alors donc Raphaël Gallien, donc présentation rapide. Donc vous êtes historien, vous préparez une thèse d'histoire sur la folie à Madagascar à l'époque coloniale et dans les premières années de l'indépendance, et vous le faites à l'Université de Paris au laboratoire CESMA sous ma direction. Alors vous avez fait paraître récemment un article dans un numéro de Politique africaine qui s'intitule La chaire de l'asile, le quotidien la folie entre violence ordinaire et ambition disciplinaire à Madagascar en 1941. Je vous donne la parole.
Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bien. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Intervention donc, oui, qui s'inscrit dans le cadre d'un travail de thèse qui se consacre au quotidien de la folie à Madagascar de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 2000. Alors, ces dernières années, les travaux des historiens sur la psychiatrie en contexte colonial et post-colonial se sont multipliés, s'intéressant notamment à l'usage politique de la psychiatrie dans l'inscription d'une domination coloniale, voire post-coloniale, c'est-à-dire des travaux qui se sont attachés à étudier les discours que la psychiatrie a pu produire sur l'Africain, tout ça avec des grandes parenthèses. Des grands guillemets, comment l'identification et la qualification du fou africain par la biomédecine européenne a permis de dire quelque chose sur le colonisé et comment cette psychiatrie vient inscrire le colonisé dans un ordre racial, colonial, social. Donc, dans le fond, cela a conduit à s'attarder surtout sur la figure du fou aux Afriques, plus que sur le fou en tant que tel. Et mon propos ce matin, c'est d'essayer de contrebalancer cette lecture pour voir ce que le fou peut nous dire lui-même de la situation coloniale, non tellement dans l'articulation qui est opérée entre la psychiatrie et le projet colonial, mais dans le délire en lui-même des personnes étiquetées comme folles. Ce qui n'est pas sans difficulté méthodologique, puisque ça veut dire s'appuyer sur des archives de dossiers de patients, donc au croisement de l'archive coloniale et de l'archive psychiatrique, j'y reviendrai peut-être. Alors, ces archives, de mon côté, elles viennent d'un hôpital qui fut jusqu'à récemment le seul établissement psychiatrique public consacré entièrement à la maladie mentale à Madagascar, l'hôpital psychiatrique aujourd'hui, mais qui est toujours en fonctionnement, mais jadis asile d'aliénés d'Anzanamast. Donc, c'est un établissement qui est installé au centre de l'île, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Tananarive, et qui ouvre dès 1912, ce qui est très précoce, puisqu'il faut attendre 1918 pour voir une structure similaire s'ouvrir en Indochine, 1920 pour le Maroc, 32 pour la Tunisie, 33 pour l'Algérie, 36 pour la Nouvelle-Calédonie, et enfin 56 pour l'AOF, avec l'hôpital de Dakar, de Fan à Dakar, que certains peut-être connaissent. Ce qui fait qu'Anzanamast, c'est vraiment le premier établissement asilaire de l'Empire colonial français. Alors déjà, auparavant, dès le 19e siècle, on a l'existence de ce qu'on appelait des maisons de fous. Il y en avait à Madagascar, il y en avait un certain nombre en Guadeloupe ou en Martinique. Donc le problème de la folie aux colonies ne débute pas en 1912 à Madagascar, mais c'était jusqu'alors surtout des lieux d'abandon de toute une série d'indigents sous autorité de responsables locaux, sans réelle visibilité ni inscription dans une politique de santé plus large. Là où Anzanamast n'est construit exclusivement pour accueillir des personnes médicalement étiquetées folles, après une période d'observation et surtout qui... Un établissement qui obéit à la législation de juin 1838, donc qui est cette loi en France qui oblige chaque département à avoir un asile d'aliénés, mais surtout qui place le fou sous autorité de l'administration, avec notamment le placement d'office. Ce qui fait qu'à Madagascar, eh bien pour la première fois aux colonies françaises, on a le fou qui se retrouve sous autorité de l'administration coloniale. Donc très rapidement, on va avoir un afflux de malades, avec plus d'une centaine d'internements dès la première année. L'établissement est prévu initialement pour 100 lits. Début des années 1920, on a une structure qui accueille plus de 160 internés, chiffre qui ne fait que croître pour dépasser les 200 internements à la fin de l'année 1929, ce qui va donner toute une série de problèmes d'hygiène, d'alimentation en eau, d'alimentation tout court, etc. Et c'est dans ce contexte que se retrouvent les quatre personnes internées sur lesquelles je vais m'appuyer aujourd'hui. Voilà. Alors, d'emblée, je dois vous dire que mon objectif, c'est pas de vous proposer une suite de cas, mais d'interroger peut-être la grande ligne commune qui traverse ces itinéraires de vie. Alors, avant de vous les présenter en détail, les points communs, tous sont placés d'office, J'ai retenu trois hommes pour une femme. Les femmes sont minoritaires en Zanamas. Elles représentent un interné sur 10 dans les années 1920, ce qui étonne d'ailleurs les médecins, puisque dans la construction de la maladie mentale depuis le 19e siècle, la folie est plutôt attachée aux femmes. Tous sont entre 32 et 43 ans au moment de leur entrée, donc une moyenne d'âge sur 4 de 37 ans, qui est assez représentative de la moyenne d'âge des entrées pour la décennie 1920, puisque pour cette décennie, j'ai étudié 196 dossiers. Et la moyenne d'âge des entrées est d'un peu plus de 35 ans. Leur moyenne de durée d'internement, c'est environ 6 ans et 8 mois, là qui n'est pas vraiment représentative, deux fois plus faible que la moyenne des internements, toujours pour cette même décennie 1920, avec une moyenne de 11 ans et 8 mois. Et ces quatre personnes proviennent de deux mêmes régions géographiques, Tananarive et sa province, et la région de Fianarantsoa, qui est un peu plus au sud. Là aussi, c'est représentatif de ce qu'on retrouve dans les dossiers et qui s'explique par une contingence géographique. Fianarantsoa est facilement accessible depuis Tananarive et inversement, et Tananarive est aussi facilement relié à l'asile. Et puis, bien sûr, ce qui va vous interpeller probablement, et c'est peut-être une sélection de ma part, mais j'en suis plus si sûr, c'est que chacune de ces quatre personnes a une profession, une formation plutôt élevée. Ce sont toutes des personnes instruites scolairement, exerçant un métier de l'écriture. Et donc qui vont constituer plutôt des intermédiaires, des médiateurs privilégiés entre colons et population coloniale, et en tout cas qui se situent dans un espace social, voire une classe sociale plutôt élevée comparée au reste de la population. Alors le premier, Joseph Raktaou, il est marié, il a un enfant, et il était jusqu'alors gouverneur adjoint de la région de Fianarantsoa. Je commence par lui parce que c'est le premier à entrer à l'asile, mais c'est le dossier le moins complet. On apprend que son délire commence en 1921, un an avant son internement, où en tant que gouverneur adjoint, il aurait multiplié des faux en écriture, en signant à la place des autorités françaises, sans que l'on comprenne précisément de quoi il en retourne. Et le médecin écrit dans son dossier à son propos que c'est un dégénéré supérieur paranoïaque, intéressant parce que dégénéré, on le retrouve très régulièrement, supérieur beaucoup moins souvent. Donc là, on voit que l'identité de malade ou d'interné n'est pas entièrement recouverte. Ne recouvre pas entièrement plutôt son identité sociale. Donc un dégénéré supérieur qui plonge, selon le médecin, dans la mégalomanie en se croyant, je cite le médecin, représentant de la France, en se mettant à gesticuler et à vociférer, il se croit la France. Donc en fait, il prend une attitude de français qui est toujours représentée comme celui qui parle fort, qui gesticule, qui impose une gestuelle à sa parole, éléments qui ont été très bien étudiés par ailleurs par Malanzaon Rakoutoumalal. Paranoïaque parce qu'il justifie avoir signé ces documents pour se passer de l'autorisation de ses chefs qui, dit-il, ne lui veulent que du mal, sans que l'on comprenne vraiment de quoi il est question, si on est purement dans le délire ou si des événements factuels pourraient nourrir ce sentiment. La deuxième personne, Joseph Roisseriwoun, alors il vit seul, c'est la police qui l'a amené à l'asile et il déclare descendre du roi Andiamanaline, Andiamanaline Ier, qui régnait selon lui sur l'entièreté de Madagascar, et lui-même affirme qu'il aurait été le successeur de ce roi s'il n'y avait pas eu la colonisation française. Alors, Andiamanaline Ier, c'est un personnage assez bien connu des historiens, souverain Betsileo, contemporain d'Andjanampoyimerne, qui est ce souverain, pour le dire très vite, qui au XVIIIe siècle va poser les bases de la monarchie merne malgache. Et donc là, se réclamer de la descendance d'Andiamanaline Ier, ce n'est pas rien, puisque c'est, bon, évidemment, revendiquer autre chose que la domination française, mais aussi se placer en porte-à-faux vis-à-vis de la monarchie merne qui va prendre le dessus sur cette dynastie Betsileo qui ne survivra pas vraiment à la mort d'Andiamanaline. Donc là, on est dans l'enchevêtrement des historicités. Il explique par ailleurs qu'il a besoin d'un passeport pour rejoindre Paris parce que, je le cite, je ne vais pas rester ici au pavillon asile d'aliénés. Il demande 500 francs pour se payer un dîner à Tananarive, puis pour pouvoir rejoindre Fianarantsoa en automobile, automobile qui revient régulièrement dans son délire et qui est vraiment l'un des symboles de la modernité à Madagascar avec le général Gallieni, qui est le premier gouverneur de l'île, qui fait des défilés à bord de sa voiture personnelle notamment et qui va marquer la population. Et ce qui est tout à fait intéressant par ailleurs, c'est que lui-même explique que c'est la police qui l'a envoyé ici à Anzanamas, à la paroisse des fous. Donc, je reprends son expression, la paroisse des fous, donc expression que je trouve splendide quant à la perception d'Anzanamas par Antoine Roussaré-Evoun, lui-même étant un ancien élève des frères des écoles chrétiennes, donc cette congrégation masculine laïque qui se consacre notamment à l'enseignement et à la formation des jeunes. Expression qui est assez fascinante lorsqu'on voit que dans le même document, le médecin note qu'il a une bonne mémoire, qu'il conserve très bien la notion du temps, de l'espace et des lieux. Donc, l'appel à cette paroisse des fous renferme toute l'empreinte religieuse qui entoure cette folie et qui se termine à l'asile. Antoine Roussaré-Evoun, dans un autre document, versant son dossier, toujours délirant, où il demande de l'argent, explique, je le cite, Je ne suis pas fou, je suis bien sage, pardon, monsieur le directeur, sous-entendu le directeur de l'asile. Donc on a cette demande de pardon, de miséricorde, qui évidemment est une rhétorique régulière de la religion chrétienne, qui s'allie ici à la sagesse, à cette rhétorique de l'ordre social, de celui qui se tient sage, pour reprendre ces termes, qui est un élément qu'on retrouve constamment à l'asile comme condition de sortie. On n'a pas les moyens de soigner le malade, donc tout va reposer sur la capacité à discipliner, et on voit bien que là, c'est complètement intégré par le malade. La troisième personne, c'est une femme, Rambois Mouve, elle a 32 ans, elle est mère de trois enfants, c'est une citoyenne qui a été naturalisée française à la suite de son mariage avec un médecin français qui fut en poste à Madagascar, mais qui au moment de son internement est rentrée en France pour exercer en libéral, et le médecin qui l'ausculte explique, je le cite, La patiente est abandonnée par son mari depuis 17 ans et cela semble avoir beaucoup influencé sur le moral de notre patient. Il précise également que les premiers troubles apparaissent vers l'âge de 14 ans, lors de ses premières menstruations, qui correspondent également à son mariage avec ce médecin, donc une personne mariée très jeune, sans que l'on ait plus de détails sur les conditions de cette union et les conditions qui peuvent s'en suivre. Et le médecin nous précise que ces troubles n'apparaissent que pendant ses menstruations quand elle est à l'asile, et que pendant ces périodes-là, elle passe son temps à dire Matiaou, Matiaou, littéralement, je meurs, je meurs. Elle est par ailleurs internée pour hystérie, je ne peux pas m'y arrêter là, peut-être qu'on y reviendra, mais ce qui veut absolument rien dire. Élément très intéressant sur lequel je ne peux pas m'arrêter non plus, mais que je ne peux pas ne pas évoquer, elle a été déclarée folle après une lecture de la Bible au temple d'Analakel, quartier très connu d'Ananarive. Donc on la déclare folle au cours de cette cérémonie avant de la remettre aux gendarmes qui vont l'emmener à Anzanamasne, elle-même passant son temps à répéter qu'elle n'est pas folle à qui veut l'entendre. Là aussi, donc, présence très forte du religieux, quoique différente. Ce n'est qu'une fois que les religieux ont déclaré sa folie qu'il y a eu cette lecture de la Bible qui en réalité est probablement un exorcisme ou quelque chose qui s'y attache. Et que cet exercice n'a pas permis de libérer la malade de son mal, et bien qu'on va l'emmener à l'asile colonial. Et puis la quatrième personne, car je crois le plus splendide, parce qu'il est très bien documenté par les médecins, plus que beaucoup d'autres dossiers, et parce qu'il va écrire des dizaines et des dizaines de lettres lui-même qui vont être conservées, des lettres qui étaient censées être envoyées à des interlocuteurs plus ou moins fictifs, qui sont saisies et récupérées comme preuves et glissées dans son dossier médical. Alors il est marié. Il est considéré comme métis par les autorités médicales parce qu'il est le père, il est le fils, pardonnez-moi, d'un père merne et d'une femme Betsileo, donc ces deux groupes socioculturels que je ne fais que d'évoquer. Il est instituteur depuis 1919 et en poste à proximité de l'asile à l'école d'Ambouidji-Mandjak depuis 1926. Et 2 ans après, le 27 juin 1928, il va devant ses élèves le matin avoir un accès de folie où il va demander aux élèves et collègues de s'agenouiller devant lui pour le saluer. Alors son supérieur fait tout un rapport qui joint au dossier médical où il explique en une demi-heure c'est un scandale, l'ensemble des parents du village reviennent chercher les enfants, etc. Et les médecins vont voir chez lui une psychose systématisée, c'est-à-dire un délire cohérent construit sur des interprétations avec un thème prévalent où les réactions affectives et les comportements sont toujours en rapport avec ce terme délirant. Alors je vais lui laisser la parole puisqu'il écrit des lettres qui, certes, vous allez le voir, sont un peu décousues mais qui expriment assez clairement, je crois, les nœuds de tension qu'il parcourt. Juste une dernière chose sur laquelle je vais revenir. En en-tête de chacune de ces lettres, il écrit à ouvrir devant tous les instituteurs. Donc, je le cite. Je restais sans rien avoir au pied de mon diplôme. Vous ne voulez pas me recevoir auprès de vous. Ce matin, j'étais battu par un des malades et reçu une plaie au front. Et je ne sais plus où je devenais, ni d'ici ni d'ailleurs, comme en sens de rien vis-à-vis de ma personne. Plus loin, il poursuit. Depuis que je suis en service d'instituteur et dépensais la totalité de ma force d'homme, j'ai démontré que j'ai aucun livre, ni bulletin, ni de quel objet de gouvernement, Rien de la dose du réconfort. Donc les livres, les bulletins, etc. sont une dose de réconfort auquel il n'a pas accès. Il poursuit en expliquant vouloir de l'argent pour retourner chez lui auprès de sa famille à Fianarantsoa. Et puis, chose très intéressante, à partir de janvier 1930, il va se mettre à écrire des rédactions de français où il disserte littéralement sur les programmes qu'il enseignait, les sciences naturelles, la grammaire, etc. Et dans une de ses dissertations, il écrit, je le cite, on raconte souvent à tort et à travers en disant que les autres Andjian, c'est-à-dire les nobles à Madagascar, pour le dire très vite, se changent en caïmans et même que certains autres se dressent en alignement au ciel. J'ose en résumer comme exactitude, au fond de mon cœur, que je prends toujours la science des Français savants et illustres pour la vraie ouverture de la capacité des hommes. Toujours dans cette même dissertation, il va ensuite parler du sikhite, c'est-à-dire, pour le dire très vite, l'art de la prédiction, de la divination, des devins guérisseurs, des umbiaches à Madagascar. Il écrit: le sikhide, de ma propre pensée intérieurement personnelle, j'en reconnais que tout ce que l'on en dise est totalement fabuleux pour en tromper les imbéciles arriérés dans d'autres régions, en tous soins les plus reculés, cause de leur paresse antérieurement en espace. Enfin, dans ces mêmes rédactions, il affirme qu'il est un ancien élève de l'école de médecine et qu'il peut donc soigner les malades, qu'il peut disséquer les corps, oui, et tenir un discours sur les organes. École de médecine dont on connaît le prestige à Madagascar, qui regroupe les jeunes merles malgaches, qui sont à l'interface entre colons et colonisés, et qui constituent l'élite de la société merle malgache, donc on a un désir d'appartenance assez clairement exprimé. Et puis enfin, dernier élément, et non des moindres, on voit que dans les premiers jours de son internement, il s'échappe, il s'évade, c'est pas quelque chose de rare, c'est régulier dans les dossiers, mais une fois rattrapé, moins de 10 jours plus tard, on apprend qu'il s'est enfui le 1er juillet en prévision de la fête du 14 juillet. Manque de chance, il est rattrapé le 9. Alors il va écrire une lettre pour demander une permission de sortie le 14 juillet parce qu'il ne peut pas, je le cite, je ne peux pas laisser ma famille sans parents pour cette date. Il va même jusqu'à proposer dans cette lettre la somme de 400 francs comme caution pour cette permission, en promettant que cette somme pourra lui être retenue s'il ne revient pas à l'issue de cette journée du 14 juillet, fête nationale, évidemment, auquel il lui semble inconcevable de ne pas participer. Alors évidemment, toutes ces affirmations sont fausses. Et même s'il ne s'agit pas de chercher à infirmer ou à accréditer rétrospectivement le diagnostic des médecins les ayant sculptés, il est certain que l'aspect délirant de leurs paroles ne fait pas de doute. Alors, comment un travail d'histoire basé sur la recherche de la vérité à partir des archives peut-elle se mettre au service de l'étude du faux, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ici? Ce que j'espère démontrer, c'est que c'est précisément en prenant pour étude ce faux que constitue le délire, que l'on entrevoit le vrai d'une situation sociale et politique. Prendre le plus au sérieux possible ces délires, c'est entrevoir assez clairement les nœuds et angoisses de chacun dans une époque, la place réservée à chacun et les imaginaires qui jalonnent ces agencements. Et ainsi mettre, du moins ce matin, en avant deux choses au minimum. Tout d'abord, le plus évident, le colonialisme est une forme de persécution en soi, plus précisément encore, peut-être, pour les indigènes qui s'insèrent le plus intensément, voire le plus radicalement possible dans ce schéma colonial. On perçoit assez clairement dans les quatre cas évoqués aujourd'hui que tous vont dans un premier temps radicalement souscrire au projet colonial, du moins dans leur insertion sociale. Ils vont essayer d'épouser l'empreinte du colonial vers l'espoir d'un devenir le meilleur possible, voire émancipatoire. Or, évidemment, ça n'aboutit jamais. Et Frantz Fanon n'a cessé de le dire face aux malades qu'il a rencontrés en Algérie, affirmant, je le cite, que la première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. Mais ici, c'est finalement comme si, eh bien, se rester à sa place, cet apprentissage de la place qu'on doit avoir, n'intervenait que relativement tardivement, une fois le dernier échelon dans la société indigène coloniale gravi, et une fois qu'on se retrouve dans cette incapacité à accéder à ce statut d'humanité, de dignité que représente la position sociale du colon qui reste de toute façon inaccessible pour l'indigène. Et on voit bien ce qui est demandé. Qu'est-ce qui est demandé? C'est le droit de signer comme un Français, le droit à un passeport, le droit de partir en direction de Paris, le droit à l'usage de l'automobile, etc., etc. Et même pour cette femme citoyenne française, il y a l'abandon en dernier recours. Elle n'en est pas véritablement. Il lui est impossible de suivre son mari en France sans que l'on comprenne précisément les raisons de cette impossibilité, mais elle reste comme errante, mutilée, moralement, psychiquement, et symboliquement. Et évidemment, en négatif, c'est montrer le fait qu'il n'y a pas de place pour eux dans cet ordre-là, et que le délire, c'est peut-être la dernière manière de formuler cette impossibilité structurelle d'accéder à ce monde dont on passe son temps à faire peut-être la promotion. L'exemple de Jean Akoulou Malan avec sa fugue pour assister aux cérémonies du 14 juillet est assez manifeste, je crois. Pour lui, c'est une question vitale que d'être présent lors de cette journée, mais de toute façon, évidemment, ce 14 juillet se tiendra sans lui. Donc on est là en plein dans cette mortification de la personnalité qui, en contexte colonial, n'est pas uniquement consubstantielle à l'internement asilaire, mais consubstantielle au monde social dans son entièreté pour l'indigène. Et ici, ce sont les acteurs donc parmi les plus intégrés de la vie de la société coloniale, du moins d'apparence, qui plonge dans le délire. Et le délire apparaît comme le marqueur des frontières sociales et politiques du colonial à partir des subjectivités de chacun, subjectivités que l'on entend rarement par ailleurs et que nous n'aurions pas pu ou pas dû entendre si ces personnes n'étaient pas tombées dans la folie. Et le délire ici se révèle comme une expression de souhait plus ou moins réprimé qui découle d'événements traumatiques. Du réel, réel au sens analytique, psychanalytique, c'est ce réel qui surgit, qu'on ne parvient plus du tout à appréhender, qui vous mutile, et donc on va se recréer une réalité à partir de ce réel, certes délirante, à défaut de pouvoir composer avec ce réel qui est une persécution permanente. Et puis la deuxième grande ligne que je voulais mettre en avant ce matin, c'est que le fou, ce n'est pas un sac vide. Fou, en latin, c'est folius, ça veut dire sac vide. Donc ce n'est pas un sac vide, mais un être qui, au contraire, déborde en permanence de lui-même, en situation de domination, d'impossibilité de l'avenir ou du devenir, le sujet malgache colonisé continue de construire et de figurer le réel en s'adossant chaque fois sur une série de configurations culturelles et de répertoires politiques qu'il réinvente sans cesse, même si ce n'est pas le délire. Donc l'activité délirante et l'économie psychosymbolique qui la sous-entendent, loin d'être asociale, voire située en dehors de toute humanité ou réductible à la seule sphère du privé, se révèle en réalité ici en grande partie liée aux tribulations du temps et a pour enjeu la lutte pour la constitution du colonisé en tant que sujet du politique. Et même lorsqu'il s'agit d'une femme abandonnée par son mari, ce qui se joue, ce n'est pas de l'ordre d'une économie libidinale privée, ou du moins pas seulement, d'une simple crise de couple, mais bien d'accession à soi et à l'image de soi. La folie, donc, est un profond révélateur de l'ordre et des désordres coloniaux, et le délire appartient bien à une catégorie du transfert dans l'imaginaire de problèmes qu'on ne parvient plus à résoudre dans le réel, ce qui avait été très bien montré sur un autre registre, La possession, par Gérard Altape dans Oppression, Libération de l'imaginaire. Ce qui semble fondamental ici, c'est bien de faire du délire une praxis qui devient en elle-même une façon de fréquenter et de convoquer le politique. Le délirant accomplit un acte tout autant politique que culturel en cherchant à réactiver sa capacité à contrôler les significations des événements tout en continuant de produire et ces mêmes événements et ces mêmes significations. Lorsque l'on disserte dans le délire sur l'exactitude de la science des Français comme ouverture sur la capacité des hommes, pour reprendre les mots de Jean Akoulmalan, c'est la façon pour l'indigène qu'il est de prendre conscience de son identité d'auto-interprète en tant que sujet politique et de se resituer par l'affirmation la plus tragique, la plus délirante dans cette oppression coloniale en dissertant sur cette accumulation du savoir qui était censée permettre d'affirmer sa place dans cette économie politique. Et de ces tentatives d'exercice public de la raison, comme il le fait dans ses lettres, lettres où il inscrit sur le devant à ouvrir devant tous les instituteurs, émerge une sédimentation intellectuelle, certes en lambeaux, mais qui se veut affirmative. Ce qui autorise non seulement à les analyser comme des procédures de constitution d'identité individuelle et sociale, mais comme des pratiques politiques tout court, c'est-à-dire des faits et gestes en rapport avec trois données fondamentales de toute existence humaine, la maîtrise des choses, l'action sur les autres et le rapport à soi et au collectif. Donc, délirer sur les programmes scolaires, c'est venir dissoudre le conflit colonial en l'exorcisant avec un délire qui déplante clairement des déterminants matériels d'une réalité quotidienne. Le délire, c'est une captation de débris, de sens du moment colonial à partir d'une parole où chaque signifiant renvoie constamment à une trame qui ramène le sujet délirant dans le champ d'un pouvoir mortifère auquel il tente désespérément d'échapper ou de répondre en l'éprouvant mortellement, d'où d'ailleurs cette idée de délire systématisé, très bien vue par les médecins, qui nous renseigne, selon moi, bien plus sur un ordre politique et social que sur un ordre médical. C'est des termes qu'on retrouve rarement d'un point de vue strictement médical. Le refus de mourir socialement, de voir sa liberté, ses désirs, sa volonté brisés constamment, prend la forme d'un drame délirant qui, de ce fait, et j'insiste là-dessus, n'est en aucune manière une libération de soi. C'est à l'inverse un déplacement tragique qui conduit à la mort. Puisque 3 sur 4 des internés vont mourir à l'asile, alors même que l'interné Rambaou-Mouffe passe son temps dans ses moments de délire à dire Matiaou, Matiaou, je meurs, je meurs. La dialectique du maître et d'esclave, largement travaillée ces dernières années, se retrouve à nouveau convoquée ici, mais n'est jamais renversée, bien au contraire, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois au sujet d'une folie qui serait libératoire. En revanche, le délire n'est pas passivité absolue du moi, et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer, lecture que l'on rencontre souvent, qui, au mieux, résume la folie à une intimité parentale ou familiale brisée. Je sais qu'une longue tradition française, notamment, a vidé le fou de toute sa substance pour n'en faire qu'une dislocation radicale, antichambre de la mort, mais ce n'est pas que ça, puisque prendre le fou le plus au sérieux possible, être le plus attentif possible à ce qu'il nous dit, c'est pénétrer dans le monde social colonial, en dessiner certaines frontières, une certaine topographie, et affirmer la nécessité d'appréhender ces fous comme des acteurs sociaux à part entière qui viennent nous révéler les limites d'un monde à partir d'une symptomatologie politique en lutte pour la dignité. Alors pour conclure, je voudrais m'éloigner juste quelques secondes de Madagascar. Dans les années 60, à la suite de sa publication Histoire de la folie à l'âge classique, un vif débat oppose Michel Foucault et Jacques Derrida. Foucault, pour servir sa thèse, bien entendu, refuse toute possibilité d'être au fou, il fait de ce refus un préalable théorique au grand renfermement du XVIIIe siècle dont il entend faire démonstration. Bon. La folie, chez Foucault, se retrouve exclue de toute activité de pensée et donc de toute humanité. La folie, chez Foucault, ne signifie plus rien d'autre que ce geste d'exclusion opéré extérieurement à elle-même par le pouvoir médical. Et Derrida va lui exprimer des nettes divergences. Selon Derrida, la folie totale, ça n'existe pas. Il va lui faire une réponse assez musclée, avec l'idée d'une interpénétration fondamentale entre raison et déraison, et Derrida affirme que la folie participe du cogito et demeure une rationalité par elle-même qui ne se retrouve jamais si éloignée d'une perception vraie, même si plongée dans une affabulation narrative que Derrida rapproche en certains points de l'onirique. Donc, selon Derrida, le fou ne serait jamais assez fou pour être totalement fou. Différemment, quelques années auparavant, Manoni avait lui aussi essayé d'interroger la folie, ou du moins les névroses du quotidien à partir des rêves, à Madagascar, pour tenter de voir de quelle distillation il était question, mettant au centre le rapport de domination et d'exploitation caractéristique de la situation coloniale, reconnaissant très volontiers qu'on a dans cette situation une mise en confrontation de deux types de subjectivité, et que ce cadre d'interprétation permet d'interroger les rapports entre le colonisateur et le colonisé, et bien sûr d'observer et d'appréhender la violence qui s'opère dans la structure politique et sociale coloniale. Mais Manoni va, au fil de son développement, réduire toutes ces significations au problème de l'infériorité et de la supériorité, cette question de la dépendance bien connue qui a été très justement attaquée par Fanon. Et de ce fait, il va réduire l'enjeu qu'il soulève initialement à un complexe individuel devenu béant avec la colonisation, mettant certes l'accent sur la nécessaire contextualisation sociale qui entoure la psyché indigène malgache, mais pour mieux ensuite l'enfermer dans un retour édipien. Or, ce qui semble se dessiner ici, à partir de ces quatre cas et de bien d'autres, j'aurais pu être beaucoup plus long, c'est une troisième voie, différente de Foucault, puisqu'il ne s'agit plus d'exclure le fou, plus proche de Derrida ou d'Altab que j'ai cité, différente de Manoni et de Fanon également, qui perçoivent rêve et délire de façon peut-être instrumentale, à travers les fonctions qu'ils sont supposés remplir. Ici, c'est plutôt ne plus négliger ces délires indigènes pour se concentrer sur les processus qu'ils évoquent, ce qui autorise non seulement à les analyser comme des pratiques politiques emplies de signification, mais aussi comme des empreintes réelles dans le tissu social. Le délire apparaît ici tout à la fois comme une jointure individuelle entre mort et agonie dans l'espace social, et comme un mouvement d'indiscipline à réinscrire dans les mouvements d'opposition, de bifurcation, de réinvention de la raison en colonie. Et c'est en tant que tel, comme réinvention tragique de la raison aux colonies, qui avait déjà été suggérée par Achimembe, qu'il convient aussi, je crois, de les étudier. Voilà, je vous remercie. J'ai fait un peu vite.
Merci beaucoup. On va donc entendre maintenant Malika Rahal, qui est historienne, chargée de recherche au CNRS et membre de l'IHTP, enfin, qui est rattachée à l'IHTP. Donc Malika Rahal est spécialiste de l'Algérie contemporaine, coloniale et postcoloniale. Elle a publié de nombreux articles et parmi ses ouvrages marquants, il y a par exemple l'UDMA et les UDMistes qui est paru en 2016, et puis un ouvrage qui est paru un petit peu avant aux Belles Lettres et aux éditions Barzac à Alger, Ali Boumangel, une affaire française, une histoire algérienne. Donc je donne la parole à Malika.
Merci beaucoup Didier. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Alors oui, on va se déplacer un petit peu. Je suis contente de la référence à Fanon faite par Raphaël Gallien à l'instant, qui commence à nous amener vers l'Afrique du Nord. Pour parler d'un moment particulier qui est l'année 1962 en Algérie, et réfléchir à ce qu'il s'y passe. Et avant de commencer à réfléchir aux différentes formes de manifestation du corps et de performance des corps de 62, il faut quand même réfléchir sur la signification un peu de ce moment, de cette année, qui est une signification assez complexe, hein. 62 en Algérie, c'est tout à la fois la fin d'une guerre. Fin d'une guerre de 8 ans, une guerre qui a été beaucoup une guerre contre les civils, une guerre révolutionnaire et contre-révolutionnaire. C'est aussi la fin d'une colonisation longue, une colonisation de 132 ans, qui a été une colonisation de peuplement, dont on peut peut-être dire que rarement une colonisation aussi profonde qui n'a pas réussi à durer en quelque sorte, qui a été renversée par une décolonisation relativement radicale, puisque au moment de l'indépendance, on considère qu'on a 10 millions d'habitants en Algérie, dont 9 millions de populations indigènes dites musulmanes, dans les terminologies de l'époque, et 1 million de ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs. Donc population coloniale, dont certains sont installés là depuis déjà plusieurs générations. Alors, avec ces données-là, il y a déjà différents éléments à tirer. On est dans un moment complexe, on est dans un moment qui est à la limite entre colonial et postcolonial, puisqu'il est question de ça dans notre journée, mais aussi on n'est pas dans l'étude d'une population qui est minoritaire d'une certaine façon, puisque majoritaire et surtout une population qui passe à une majorité politique au moment où on est en train de l'examiner, on est en train de regarder ce qui se passe au moment où la population colonisée accède à une situation où elle n'est plus minoritaire et pas seulement dans les termes numériques. Et puis je disais, c'est un événement complexe 62 parce que c'est aussi la naissance d'un État qui a été quand même porté depuis plusieurs années par le Front de Libération Nationale, par son armée, l'Armée de Libération Nationale, avec des efforts au fur et à mesure des 8 années de guerre pour se constituer en État avec un gouvernement provisoire et un État qui devient officiel, si vous voulez, et durable avec l'année 62. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des éléments chronologiques, mais il y a quand même quelques moments qu'il faut avoir en tête dans cette année pour saisir les différentes formes que vont prendre les manifestations dont je vais parler. Il y a en gros deux dates qui structurent cette année 1962. La première, c'est le 19 mars et le cessez-le-feu qui suspend les combats et qui, pour beaucoup en Algérie, est déjà une forme de victoire, mais aussi pour beaucoup à l'extérieur de l'Algérie, est déjà une victoire. Le 19 mars, on a des foules dans la rue à Rabat, des foules dans la rue à Tripoli en Libye, à Tunis, à Bagdad, au Caire. Et ces événements extérieurs font retour. On en entend parler en Algérie dans l'événement lui-même. Ça, c'est la première date. 19 mars, cessez-le-feu. Et puis, on a un second moment, une seconde date, qui est le début du mois de juillet 1962, qui est l'indépendance proprement dite, avec plusieurs événements. Le référendum d'autodétermination du 1er juillet, le transfert de et le 3 juillet, et le 7 juillet, l'affirmation de l'indépendance, ou le fait de fêter officiellement l'indépendance avec un calendrier finement élaboré, de sorte que les fêtes du 5 juillet ont lieu en quelque sorte hors de la présence des autorités françaises. L'indépendance a déjà été acquise officiellement les 2 jours précédents, et donc au moment où on fête l'indépendance collectivement, notamment dans les rues, les autorités françaises ne sont plus là. Et Et il y a quelque chose qui définit là le moment auquel on a affaire. Alors, entre ces deux dates, on a une période transitoire qui est assez complexe, marquée par une très grande violence, celle de l'organisation de l'armée secrète. On a aussi un phénomène qui s'accélère, qui est celui de l'exode de la population française d'Algérie. On considère qu'il y a plus de 600 000 Français d'Algérie qui quittent dans le courant de l'année 1962. Et on a une situation très instable, très effervescente, très dangereuse et par beaucoup d'aspects extrêmement violente. Je voudrais préciser ici, avant de me lancer dans l'analyse de ces festivités, que je vais laisser de côté pour aujourd'hui un cas particulier qui est le cas de la ville d'Oran, où les violences ont atteint des niveaux qu'elles n'ont pas atteints dans les autres villes. On pourrait les intégrer dans l'analyse, elles ne constituent pas un contre-exemple, mais dans le cadre d'une intervention un peu courte, c'était pas possible de traiter de ce cas particulier. Et du coup, je vais me concentrer plutôt sur les autres localités en laissant ce cas de côté. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout au long de cette année 1962, on assiste à des formes de festivités, à des formes de célébration depuis le cessez-le-feu du 19 mars jusqu'à l'automne. Alors, par des modalités qui ont des racines anciennes sur lesquelles je vais revenir, mais qui vont marquer et se transformer au fur et à mesure de l'année. Mon idée, c'est que examiner ces festivités et les décrire, essayer de mieux les saisir à travers les photographies, à travers les films ou à travers les récits auxquels elles ont donné lieu, comprendre les mises en scène du corps, comprendre les performances qui sont jouées en quelque sorte dans ces événements, comprendre aussi leur dimension spatiale, ça me fait avancer vers la compréhension de ce que c'est ce moment de 1962. Et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ces performances ont l'air de mettre en scène un renversement radical, symbolique de ce qu'a été la colonisation par plusieurs de ces aspects. Et c'est vraiment par l'aspect spatial que je voudrais commencer à parler de ces festivités de 1962, parce que je trouve que il y a dans l'action de l'espace tout au long quelque chose qui bouleverse la domination coloniale, dont on sait qu'elle a une dimension spatiale très forte, une dimension d'appropriation ou d'accaparement de la terre, d'accaparement ou de reconstruction de quartiers des villes et de cantonnement de la population colonisée dans des formes diverses. Alors en Algérie, on ne peut pas parler à proprement dit d'apartheid, mais on a bien des divisions en quartiers, on a bien des quartiers qui sont majoritairement peuplés d'Algériens, des quartiers qui sont plutôt réservés à des populations européennes, et puis on a des formes de cantonnement qui se sont aggravées considérablement durant la guerre. Je rappelle juste un chiffre qu'on oublie souvent tellement il apparaît difficile à croire, moi-même il me surprend à chaque fois. À la fin de la guerre, un quart de la population colonisée est détenue dans des camps de concentration en Algérie. On a 250 000 Algériens qui sont réfugiés à l'extérieur du pays, principalement en Tunisie et au Maroc. Et donc cette question de l'occupation de l'espace ou de la réappropriation de l'espace, elle est vraiment fondamentale au moment du passage à l'indépendance. Alors quand on regarde comment les formes de manifestations collectives de 1962 jouent avec l'espace, on se rend compte qu'il y a une première forme dans le début de l'année qui ne naît pas avec 1962, qui probablement remonte à des grandes manifestations qui ont déjà eu lieu en décembre 1960 et qui sont plutôt de l'ordre de la manifestation un peu émeutière, très rapide, sans organisation. Certaines d'entre elles, celles de décembre 1960, ont été étudiées récemment dans un ouvrage de Mathieu Rigouste qui porte sur ces manifestations-là. Et elles sont un peu difficiles à décrire justement parce qu'elles sont fugaces. D'ailleurs, la police française a trouvé un terme pour y faire référence, c'est le terme d'effervescence. Il y a des effervescences, elles sont très inquiétantes pour la police. Alors de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit dans un quartier majoritairement algérien, souvent de façon réactive par rapport à un événement. Quelqu'un a été arrêté, quelqu'un a été abattu. La nouvelle d'un tel événement est venu d'un autre quartier et les gens se rassemblent. Ils se rassemblent dans la rue. Parfois, ce sont des rassemblements mixtes, hommes, femmes, enfants. Parfois, ce sont seulement des rassemblements d'hommes ou seulement des rassemblements de jeunes avec les femmes qui sont au balcon et qui les accompagnent avec des youyou. Souvent, il y a des chants nationalistes qui sont chantés, il y a des hymnes. Parfois, il y a un déplacement. On se déplace dans le quartier, on quitte le quartier. Parfois, ça aboutit à des formes de violence. On va s'en prendre, par exemple, à un café tenu par un pied noir. On va installer un barrage sur la route. On va lancer des pierres aux voitures qui passent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des vagues de contagion d'un quartier à l'autre et des vagues d'organisation un peu plus fortes. Cette contagion, c'est la contagion des manifestations, mais ça peut être aussi des mouvements de grève, des commerçants qui ferment leurs boutiques. En fermant leur boutique, ils libèrent par exemple les trottoirs qui permettent de créer encore plus d'espace pour se rassembler. Les ouvriers qui travaillent dans des usines de tabac ou dans des usines d'électronique, d'automobiles, qui travaillent dans les transports publics se mettent en grève et ces grèves se répandent d'un quartier à l'autre. Ces rassemblements, ils sont sonores. Et dans leur sonorité, ils sont encore plus inquiétants pour la population coloniale. On a plusieurs témoignages de l'époque, des journaux notamment, où les Européens écrivant expriment leurs inquiétudes face à cette population colonisée qui est rendue présente par les youyous. Les youyous sont effrayants. On a l'impression que les youyous sont en eux-mêmes violents. Et il y a un paradoxe. Parce que ce qui inquiète les Européens, c'est à la fois une présence et une absence. Les bonnes ne viennent pas travailler, les femmes de ménage ne viennent pas travailler, les tramways ne fonctionnent plus, les magasins sont fermés, les vendeurs de légumes ne sont plus là, et en même temps, il y a cette présence sonore, forte, dérangeante, inquiétante, qui marque l'espace. Ces rassemblements émeutiers, effervescents, en même temps joyeux et en même temps réactifs face à des événements, vont continuer à se prolonger, y compris après le cessez-le-feu dans la période transitoire. Mais il y a quelque chose qui change à partir du moment où le cessez-le-feu est annoncé, c'est qu'il y a là une dimension de victoire qui est beaucoup plus forte. On a des festivités qui ne sont pas que des festivités émeutières, mais qui sont aussi des rassemblements familiaux, des rassemblements de quartier, des rassemblements musicaux qui vont avoir lieu à l'intérieur des quartiers avec une très grande inquiétude de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. On a peur de la réaction des autorités françaises. Le cessez-le-feu, c'est nouveau. On n'a pas confiance encore dans ce cessez-le-feu. On a peur surtout de l'OAS. Et donc, les festivités sont souvent cantonnées à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur des maisons, dans une forme d'intimité. Je vais essayer de vous lancer quand même un petit PowerPoint pour vous montrer quelques images. Alors, la première que je vous montre ici, c'est une des rares photographies des festivités du 19 mars, et elle est caractéristique des deux ou trois autres que j'ai pu tourner, elle correspond, que j'ai pu trouver, elle correspond aussi au récit que l'on a. Ici, on est dans la Casbah. C'est le mois de mars, c'est l'hiver, les gens sont moins prêts qu'ils ne seront au moment des festivités de juillet. On a moins d'objets, moins de drapeaux, moins de tenues particulières. Mais surtout, la photographie est prise à l'intérieur d'une ruelle de la Casbah, c'est-à-dire un quartier à majorité algérienne. Et c'est là que les festivités sont cantonnées. L'impression vraiment d'être concentrée, elle est liée bien sûr à l'importance de la foule, mais elle est aussi liée au lieu et au fait que rarement au mois de mars, les festivités ne vont sortir pour aller occuper les espaces centraux des villes, puisque les espaces centraux sont des quartiers plutôt à majorité européenne et que donc à ce moment-là, si vous voulez, la reconquête spatiale n'a pas encore eu lieu complètement et on n'a pas encore complètement cette dimension de spectacle que l'on trouvera dans les festivités suivantes. Le fait qu'on ait peu de photographies est lié au fait que peu de journalistes sont venus voir et que peut-être les gens eux-mêmes n'ont pas pris autant de photos qu'ils ne le feront plus tard. Néanmoins, dans les récits qu'on a de ces festivités, le reste du monde n'est pas complètement absent. Je l'ai dit tout à l'heure, la radio, par exemple, ramène les nouvelles qui viennent des autres pays et de festivités qui ont lieu dans les autres pays et commence à donner l'idée qu'il y a une caisse de résonance mondiale aux événements qui sont en train de se passer en Algérie et aux festivités qui sont en train d'avoir lieu en Algérie. En contraste avec ça, si vous voulez, on a des images beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus célèbres des festivités du mois de juillet. Ici, je vous ai choisi une des photos un peu canoniques des festivités du mois de juillet, où ici, on est à l'extérieur, où les foules sont beaucoup plus exubérantes et surtout elles sont beaucoup plus équipées, si vous voulez. Il y a eu tout un travail de préparation et pour ces festivités sur lesquelles je vais revenir, mais surtout l'occupation de l'espace est différente. On a des fêtes qui sont beaucoup plus souvent des fêtes marchandes, qui vont traverser le cœur des villes et qui vont même se rendre dans des lieux symboliques de la domination coloniale, autour des statues coloniales. Parfois, elles vont être détruites, parfois, elles vont être rhabillées. On va mettre un foulard sur la tête de Jeanne d'Arc, on va peindre une statue, on va la rhabiller, on va l'algérianiser, si vous voulez. Et on a même, dans les grands défilés qui s'organisent au mois de juillet, le choix qui est parfois imposé par la foule elle-même, notamment à Alger, que ces défilés passent au cœur des quartiers européens. À Alger, le défilé aurait dû aller d'est en ouest pour rejoindre Sidi Ferruche et la plage sur laquelle les Français ont débarqué en premier en 1830. Elle aurait dû longer la mer et passer tout à fait en bas du quartier de Bab el-Oued. On a des témoignages qui montrent que la foule a exigé notamment des combattants qui défilaient, que le défilé passe à l'intérieur même de Bab el-Oued, avec un des slogans qui marque cette journée, Bab el-Oued, Deh el-Oued, Bab el-Oued, le fleuve l'a emporté. Elle a été prise, elle a été conquise symboliquement par la foule qui défile. Dans ces défilés dans les quartiers européens, bien souvent les Européens sont invités à participer. Certains le font, mais ils sont vraiment extrêmement peu nombreux. C'est souvent d'eux d'ailleurs qu'on a les photographies qui sont prises de haut et qui illustrent ces festivités. Donc on a vraiment un élément de retournement au fur et à mesure des festivités de l'année, de retournement de l'espace colonial à travers la festivité, marqué symboliquement par la festivité. Il y a un deuxième élément qui est central dans ces festivités, c'est évidemment la dimension de mise en scène des corps et de préparation, si vous voulez, de corps parés à l'intérieur de la festivité. On le voit ici sur l'image que vous avez à l'écran. Certains des enfants, vous en voyez un dans les tout premiers au devant de l'image, les gens se sont préparés à ces festivités au fil des semaines et des mois. Des tenues particulières ont été cousues. Parfois, c'est par les femmes des familles, parfois, ce sont par des couturiers ou des couturières professionnelles. Des enfants qui portent des calots vert et rouge ou vert avec une étoile et un croissant de lune, des jeunes filles qui portent des chemises et des robes avec des foulards colorés, tout ça est décliné en rouge, blanc et vert. Tout le monde met de fanions, de drapeaux, des drapeaux sont installés devant des bâtiments. Et on a par exemple une photographie prise par Marc Ribou à Alger, à la veille des festivités du 5 juillet, où en quelque sorte préparer le décor des festivités, c'est déjà un élément festif, c'est-à-dire que les gens viennent assister à comment on prépare le décor dans lequel va avoir lieu la performance du 5 juillet. Donc, ce n'est pas seulement les corps eux-mêmes, mais c'est aussi les murs qui deviennent porteurs de slogans. Ici, on reconnaît non au culte de la personnalité, un seul héros, le peuple. Et en arabe, j'y reviendrai tout à l'heure, Allah yarham shuhada, que Dieu ait pitié des martyrs, avec des dizaines et des dizaines de fanions qui sont installés pour créer le décor dans lequel va avoir lieu la manifestation. Une peut-être des difficultés pour décrire ces festivités, c'est qu'elles offrent un mélange quand même très, très marquant, à la fois de spontanéité, si ce n'est de délire, de folie, de transe et d'organisation. Je vous l'ai dit, on s'y est préparé, on a prévu le calendrier de ces festivités, le calendrier a été pensé pour son sens symbolique, on a essayé d'encourager les gens, ça ne marche pas toujours très bien, mais d'encourager les gens à la retenue jusqu'à la très grande fête qui va avoir lieu le 5 juillet et qui est censée être la plus symbolique, celle qui va défaire la colonisation, puisque le 5 juillet 1962 fait écho à la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830. Donc on a des éléments d'organisation qui coexistent avec des pertes de conscience de soi et de gens qui s'égarent. Cette préparation, outre la description, elle se voit aussi dans le matériel qui est utilisé, dans le fait que on transporte des gens, ou des gens se transportent, sont transportés pour aller par exemple des petites localités vers les localités les plus grandes, que dans les photographies on reconnaît des organisations de groupes, que les groupes scouts défilent ensemble, que les enseignants défilent parfois avec leur classe, qu'on a parfois on reconnaît dans les foules certaines personnes qui sont censées être des organisateurs. Ceux qui ont un costume un peu plus officiel, ceux qui portent des lunettes de soleil, les jeunes hommes, souvent sont dans un rôle d'organisation, également parfois les jeunes femmes. Il semble qu'il y ait une grande fluidité aussi dans les rôles, qu'on puisse assez facilement passer du côté de l'organisation et sortir du rôle de simple participant à la festivité. Qu'il y a des éléments de sécurité qui ont été mis en œuvre, notamment les Algériens, infirmiers, infirmières, médecins sont, j'allais dire sur le pied de guerre, c'est pas une expression très adéquate, mais sont prêts et s'occupent pendant les journées de festivités, s'occupent de ceux qui sont blessés, de ceux qui font des malaises, de ceux qui sont perdus. Et je vais pas pouvoir développer cette thématique de la prise en charge des corps qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin, mais montrer qu'on est capable de s'organiser soi-même pour prendre en charge ses propres blessés et assurer la sécurité de ses propres manifestants, c'est un des éléments essentiels de l'organisation de la manifestation. On a une vidéo, par exemple, de ces journées au moment du vote du référendum d'autodétermination le 1er juillet, qui est une première performance du corps collectif, où on entend tout à fait en arrière-plan, ça n'a pas intéressé apparemment le journaliste, quelqu'un qui parle, qui crie à la foule en arabe, organisez-vous, organisez-vous, les journalistes du monde entier sont là, ne nous faites pas honte, montrez que vous êtes organisés, demain vous serez dans les journaux du monde entier. Donc on voit à travers cette parole à peine captée dans une vidéo de journaliste, cet élément de ce désir exprimé d'une mise en scène d'un corps selon des critères qui sont des critères de sérieux, d'organisation, de puissance et des corps qui ne sont pas dans le chaos, où l'enthousiasme n'est pas un enthousiasme qui mène au chaos ou qui mène à la violence, mais où On est capable d'autodiscipline, on est capable d'autodétermination, parce que c'est un moment où tous les regards vont être braqués sur nous et en quelque sorte, il ne faut pas rater l'entrée sur la scène internationale de ce pays qui est en train de naître. De l'autre côté, la ferveur, la transe, la perte de conscience, elles sont marquées dans beaucoup de récits de témoins de l'époque. Je me rappelle avoir interviewé un monsieur qui me disait, je sais pas, j'étais à Sidi Bel Abbès, je sais pas comment je me suis retrouvée à Oran. Je suis montée dans un camion, on a chanté et tout d'un coup j'étais à Oran et je sais pas comment ça s'est produit. Vous avez toute une série de légendes, c'est-à-dire de ces histoires dont on n'est pas certain qu'elles soient vraies ou fausses, on n'a pas forcément de moyens de les vérifier, mais en elles-mêmes, elles expriment une réalité vécue, une expérience de ces festivités, et beaucoup d'entre elles tournent autour de la question des femmes. Les femmes qui venaient d'accoucher, mais sont quand même sorties pour aller danser dans la rue au moment des festivités. Les femmes qui étaient enceintes, prêtes à accoucher, et qui malgré tout sont sorties dans la rue et ne sont pas revenues pendant plusieurs jours. Laissant leur famille dans une sorte d'inquiétude, ou bien tout simplement les femmes qui sont sorties, peu importe, enceintes, pas enceintes, mais elles sont sorties et elles ne sont pas revenues pendant plusieurs jours. Et je pense que ces légendes des festivités de 1962, elles visent vraiment à montrer le caractère transgressif, d'inversion, non seulement du monde colonial, de la réalité coloniale, mais aussi de la réalité sociale. Et retrouve ailleurs dans d'autres types d'anecdotes, dans des anecdotes qui ne sont pas que des légendes, mais par exemple un témoignage d'un homme qui était jeune garçon dans un des camps qu'on appelait les camps de regroupement où était la population. Pour lui, le moment de la du renvoi, Français ont quitté l'installation du camp, notamment ont détruit les barbelés, et où ensemble, hommes et femmes habitants du camp, ont mangé ensemble et ont partagé dans sa famille à lui, ils ont partagé le même berkoukes, le même plat, et ont mangé dans le plat commun. Il dit, c'est la seule fois où dans ma famille, j'ai vu les hommes et les femmes manger ensemble. Donc cette présence des femmes, cette mixité à l'intérieur des foules festives, elle n'est pas absolue. On a beaucoup d'images où on voit aussi qu'il y a des segments de festivités qui sont des groupes de femmes, qui sont séparées de groupes d'hommes, mais elle existe, et elle existe dans plein de contextes différents, et elle contribue, je crois, à dire l'intensité du bouleversement et du renversement. Enfin, un dernier aspect de ces festivités de 1962 qui, je crois, caractérise vraiment le moment. C'est le fait qu'elles sont bien souvent organisées autour d'une présence massive des disparus, des morts et des disparus. Il faut imaginer que même en juillet, on est encore dans une situation où beaucoup de gens attendent. Il y a des gens qui sont partis au maquis, il y a des gens qui ont été enterrés au maquis, il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des réfugiés qui reviennent de l'extérieur. On a perdu de vue énormément de proches partout en Algérie. On en a vu revenir certains depuis le mois de mars. Les gens sont redescendus des maquis, certains sont revenus de l'étranger, mais il y a beaucoup de familles qui attendent encore. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées, qui ont déjà reçu des mauvaises nouvelles, qui savent que le fils, le frère, la sœur, les parents ont été tués pendant la guerre. Et malgré ça, y compris dans les familles endeuillées, il y a des tentatives pour mettre de côté le deuil, pour participer à la festivité. Et en même temps, le deuil ressurgit à travers des gestuelles qu'au début j'avais trouvées dans des vidéos plutôt muettes, donc je ne comprenais pas exactement la signification de foules qui marchaient en levant le doigt. Alors vous le savez sans doute, lever le doigt en islam, c'est l'affirmation du tawhid, de l'unicité de Dieu, c'est un des symboles importants de la foi, mais il m'a fallu assez longtemps pour trouver une image où le son correspondait à ce que je voyais, et un témoignage de quelqu'un qui me l'a confirmé également. Ce qui est chanté le plus souvent au moment où les foules sont marchandes en levant le doigt de cette façon, c'est le slogan qu'on a vu tout à l'heure sur l'image photographique, la photographie des préparatifs de la festivité. Allah yarham shuhada, scandé par des foules qui répètent cette invocation à Dieu pour qu'il prenne en pitié les martyrs, et qui est une façon de faire communauté autour des martyrs, autour des morts et autour de ceux que l'on entend, que l'on attend encore, pour les mettre au centre de cette expérience fondatrice. Parce qu'effectivement, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de fondateur dans cette expérience des festivités qui, en quelque sorte, fusionne une communauté qui est la communauté nationale correspondant à l'État qui est en train de naître. Si on définit une communauté, cela veut dire sans doute qu'il y a des gens qui en sont exclus, qu'elle définit des limites de la communauté. Et de fait, j'ai parlé tout à l'heure de la question des Européens qui tous n'ont pas senti qu'ils pouvaient participer à ces festivités, certains qui avaient peur de violence, certains qui ne se sentaient pas concernés, tout simplement, certains qui, au contraire, font le choix d'en être, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont exclues. Dans certains cas, par exemple, les anciens supplétifs de l'armée française, ce qu'on a appelé après, ou qu'on a commencé déjà à appeler les harkis, certains participent, d'autres pas du tout. Certains sont exclus de la festivité lorsqu'ils cherchent à y participer. Mais il y a des témoignages de gens qui se mettent en dehors de ces festivités ou qui sont en dehors de ces festivités et qui témoignent du fait que cette exclusion au moment où l'État naît et où le peuple connaît sa plus grande joie, en quelque sorte, c'est la plus grande douleur en réalité. Notamment certains nationalistes qui ne participent pas au courant nationaliste dominant et qui ne se sentent pas de participer à ces festivités disent la douleur qu'il y a au moment où l'Algérie atteint son indépendance de ne pas participer à ces fêtes. En conclusion, je voudrais revenir à la thématique principale de notre journée, à la question de la performance de dignité. Est-ce qu'il y a là un élément de performance de dignité? Et la question qui était posée tout à l'heure, de savoir s'il y a une performance de dignité, alors de quelle est cette dignité en quelque sorte? Et d'une certaine façon, ici, la performance de dignité, c'est la communauté nationale et l'État. Atteindre la dignité, c'est atteindre une existence où on est organisé en État et où on incarne cet État, y compris au sein de la manifestation. Mais au-delà de la performance de dignité, il y a un élément aussi qui est à mon sens, une manifestation d'existence. On est dans une période où on sort d'une colonisation qui a été un effacement de la population colonisée, qui a été un accaparement, pardon, de la terre, qui a été, je repense aux paroles de Pierre Clavery, né parmi les pieds noirs et qui est devenu, après l'indépendance, l'archevêque d'Oran, qui, au moment de raconter son enfance, disait: nous, les pieds noirs, on considérait que les Algériens n'existaient pas. Ils étaient dans le paysage, mais ils étaient comme les meubles, comme le bétail, comme les arbres. Ils étaient un élément de paysage et ils n'étaient pas un élément humain. Et là, on a des festivités qui mettent en scène. Bien souvent, on se met en scène sur des camions, les camions qui fournissent la scène sur laquelle on va installer une mini performance, de laquelle on va pouvoir voir la foule, mais sur laquelle on va être vu et voir en même temps. Il y a une performance de la collectivité, du corps collectif, une mise en scène du corps collectif qui est un élément d'affirmation de soi et de son existence, qui est probablement le plus grand retournement de ce qu'a été, l'essence de la colonisation, à savoir l'effacement de la population colonisée. Et j'en terminerai avec ça.